Et il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Samedi dernier, 18 décembre, à 7h26, pour la première fois dans l'histoire du rail français, un train de voyageurs d'une compagnie d'un pays concurrent a donc quitté la gare de Lyon pour la ville de Lyon. Un train à grande vitesse sur les terres de notre TGV, inauguré précisément sur ce même tronçon il y a plus de 40 ans. Deux allers-retours quotidiens jusqu'à Milan, trois d'ici au mois de juin, quatre classes, grand confort, 139 € contre 142 dans nos TGV en première classe. La fin du monopole de la SNCF sur les lignes à grande vitesse, c'est un moment charnière qui en amènera d'autres avec un point d'interrogation, nous poserons la question, qui change quoi, surtout pour nous qui prenons le train? Est-ce que bientôt, comme lorsque nous prenons l'avion, nous pourrons jongler entre différentes compagnies pour aller à la moins chère, à la plus efficace, pour contourner parfois les grèves? Est-ce que cette concurrence qui reste moindre, le TGV entre Paris et Lyon pour l'instant c'est 22 allers-retours par jour, mais est-ce que cette concurrence veut dire innovation, investissement, ou est-elle en train de mettre à mal le service public? Au-delà des grandes lignes, depuis 2019, les régions peuvent faire des appels d'offres pour exploiter des lignes et ça ne fera qu'augmenter à partir de 2023. À cela s'ajoute, et nous y viendrons si vous le souhaitez, ces trains de nuit qui repartent un peu partout en Europe. Le train, on aime bien le détester pour ses prix, pour ses retards, pour ses conflits sociaux. On aime bien le privilégier pour voyager zéro carbone ou presque, pour voyager simple et aussi parfois pour voyager pas cher. Que ceux qui nous aiment montent à bord. Ce soir, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et la première, c'est vous. Sarah, vous êtes à Aurillac. Soyez la bienvenue.
Merci. Bonsoir France Inter et bonsoir à vos invités. Je souhaitais tout d'abord, comme c'est souvent le cas, vous remercier pour la qualité de vos émissions. Et effectivement, là, j'ai sauté sur mon téléphone ce soir pour pouvoir vous témoigner le malheur que je constate en France actuellement lorsqu'on souhaite organiser un trajet. Et je ne peux qu'espérer que la concurrence apporte une lisibilité et plus de facilité dans les voyages interrégions, parce que effectivement on n'y comprend plus rien. La Société nationale des chemins de fer a laissé place à des régions qui ne communiquent pas entre elles et où il est extrêmement difficile de s'y retrouver. Dernièrement, ma fille qui est étudiante en Occitanie, alors que Aurillac bien sûr se situe en Auvergne-Rhône-Alpes, a souhaité donc faire son trajet forcément depuis Toulouse jusqu'à Aurillac. Et nous avons rencontré dans un premier temps une facilité, puisque la région Occitanie a abandonné sa carte permettant la réduction pour les jeunes gens. Mmh. Et elle a pu bénéficier donc de 50% sur cette partie du trajet. Mais attention, il ne fallait pas réserver le trajet Toulouse-Aurillac, puisque sinon ça a annulé la réduction, étant donné que la partie Cap de Nac-Gare qui se trouve en limite d'Occitanie et Aurillac.
On a bien compris que vous nous emmeniez. On a du mal à vous suivre sur vos lignes et rails, Sarah, mais on a bien compris que c'est le maquis des différentes tarifications qui vous intrigue, et que le fond de votre question était de savoir si au fond il y aurait une meilleure lisibilité s'il y avait concurrence ou plus de concurrence. Allez, pour discuter ensemble jusqu'à 20h et répondre à toutes vos questions, Christophe Fanichet est avec nous. Bonsoir, monsieur Fanichet.
Bonsoir.
Vous êtes PDG de SNCF Voyageurs et Gilles Danzard est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de Mobilettre, spécialisé donc dans les transports. Christophe Fanichet, derrière le maquis des tarifs et des difficultés dont parlait Sarah, sur lequel on reviendra avec grand plaisir, on entend chez certains auditeurs, peut-être qu'on y verra beaucoup plus clair quand la SNCF aura des concurrents derrière elle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
D'abord, la concurrence, elle est là. Elle est arrivée aussi bien sur les grandes lignes que sur le TER, comme vous l'avez dit.
Ah oui, absolument. Et de plus en plus.
Et de plus en plus. D'abord, peut-être pour nos auditeurs, de quelle concurrence on parle ? D'abord, à la SNCF, c'est un groupe. D'abord, il n'y a pas de concurrence en tant que telle. Les gares et le réseau, les rails, ils vont être ouverts à tous les concurrents. Donc là, au sein de SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, on va accueillir absolument tous les concurrents. La concurrence, elle va être dans les trains. Et dans les trains, c'est SNCF Voyageurs, l'entreprise que je dirige. Et donc, ça va être deux natures de concurrence. Les trains à grande vitesse, vous le rappeliez Fabienne à l'instant, avec l'arrivée de Trenitalia le 18 décembre dernier. La grande vitesse arrive, c'est effectivement depuis 2 ans, il était possible, d'après les textes européens, qu'ils arrivent. Ils sont là. 2 allers-retours, nous on va en faire 22 comme vous le rappeliez, et puis on va mettre tous nos atouts de notre côté.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire, quel est, pourquoi, je vais plutôt le formuler comme ça, qu'est-ce que vous me dites à moi qui vais faire un Paris-Lyon, qui me met plutôt dans un TGV, que plutôt que dans le Trenitalia qui partira à la même heure? Alors, passant du principe que je ne vais pas le rater, et que je l'aurai bien celui-là, mais qu'est-ce qui me fait préférer le vôtre plutôt que le leur?
D'abord, la qualité du service. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons pour partir à Lyon, c'est plusieurs trains possibles. Les Ouigo, à petit prix, qui vous permettent, dès 16 euros, de prendre un Paris-Lyon. Plus de services avec nos TGV Inouï, seconde classe, première classe. Et puis, nous avons depuis quelques semaines une business pro-première qui permet d'avoir un véritable...
Et si vous avez une pro-première, pardonnez-moi, c'est parce qu'il y a 4 classes dans le Transitalia et que vous vous rendez bien compte qu'il va falloir être au même niveau, non? Est-ce que c'est ça qui vous fait monter en gamme?
Aujourd'hui, c'est notre programme Riposte. Effectivement, on a décidé, il y a quelques semaines, d'augmenter le niveau de service avec cette business pro-première qui vous permet, par exemple, d'avoir un repas servi à la place, comme effectivement la compagnie italienne le promet. Mais c'est aussi, surtout, proposer différents tarifs et différentes classes en fonction des besoins des gens. Le loisir, avec du Ouigo, par exemple, pour les petits prix. Et même, on va ouvrir en mars prochain un Ouigo train classique. Ce Ouigo train classique, c'est tout simplement les anciens corails que vous avez pu connaître et qui seront au maximum à 30 euros, quel que soit le moment où vous partez.
Et Gilles Danzard, rédacteur en chef de Mobilette, quand j'entends Christophe Anichet, je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette arrivée italienne et qui en appelle d'autres, est-ce que c'est une manière de, pardon, je vais le dire un petit peu vulgairement, de se mettre un coup de pied aux fesses en fait pour la SNCF, Gilles Danzard?
Ah, c'est dans l'intention du législateur et des pouvoirs politiques depuis maintenant 15 ans que de faire en sorte que la concurrence soit un aiguillon pour la SNCF. D'abord un aiguillon pour qu'elle réduise ses coûts, parce qu'on considère que les coûts de la SNCF sont trop élevés par rapport à ceux de ses homologues européens. Et deuxièmement, d'être un aiguillon pour la qualité de service, pour le confort, etc. Donc c'était bien l'intention. Après, est-ce que le résultat va être celui-là? Ce qui est passionnant avec le ferroviaire, c'est que il y a jamais de baguette magique. Par exemple, pour que la concurrence fasse en sorte qu'il y ait plus de trains disponibles pour les Français, si on ajoute les trains de la SNCF et les trains de la concurrence, eh bien, il faudra aussi des investissements sur l'infrastructure, sur le réseau, etc. Donc, la concurrence, ce ne sera jamais miraculeux en matière ferroviaire, mais ça peut être un élément, faire en sorte que plus de Français demandent plus de trains et que donc ça incite l'ensemble des acteurs, notamment les pouvoirs publics, à mettre plus d'argent sur la table pour faire en sorte qu'il y ait moins de voitures et moins d'avions et plus de trains.
C'est ça le cercle vertueux, Christophe Anichet. J'oublie pas l'autre partie de la question de Sarah qui a été aussi mis en valeur par Gilles Danzard sur les coûts. Est-ce que ça joue sur les coûts, une ouverture à la concurrence? Est-ce que vous vous dites oui, il va falloir qu'on soigne un peu le maquis que décrivait Sarah tout à l'heure?
Alors, l'ouverture à la concurrence, il y a 2 clients qui vont être ouverts à la concurrence. Les grandes lignes, on vient de le dire. Et là, le client qui va faire le choix, c'est le voyageur. Il va choisir SNCF ou un autre opérateur. C'est lui qui aura le choix. Et puis, la concurrence, c'est les régions qui vont ouvrir à la concurrence. On pense, par exemple, à la région Sud, qui a ouvert à la concurrence, qui a été la première, et qui a attribué un des deux lots à Transdev. Et nous, on a eu, bien sûr, l'autre lot. Et donc, ça, c'est la région qui va décider. Cette mise en concurrence, elle est assez simple. Elle permet à un client, tout simplement, de dire, bah voilà, je veux regarder entre 2 opérateurs, 3 opérateurs, qualité de service et innovation, et pour quel prix. Le client, il va pouvoir regarder sur le prix, soit on va lui faire un prix canon, soit il va avoir des services complémentaires. Dans le cas de la région Sud, ce qui a été décidé par son président, Renaud Muselier, c'est d'augmenter le nombre de trains. C'est-à-dire que pour le même prix, il va doubler le nombre de trains entre Marseille et Nice et il va augmenter 75% le nombre de trains sur l'étoile de Nice. Donc oui, il y aura un bénéficiaire parce que on va améliorer nos coûts et on va faire plus de services.
Est-ce que, pardon, je répète ma question, est-ce que pour vous, ça veut dire qu'il faudra effectivement retravailler sur les coûts pour être vraiment compétitif là-dessus, pour que lorsque j'aurai le choix, y compris dans une région, je me dise, non mais je vais aller chercher le bon vieux train estampillé SNCF parce que là, de toute façon, les coûts sont meilleurs ou, comme le disait Gilles Danzard, vous êtes de toute façon un peu lié par le fait que vous devez aussi travailler avec SNCF Réseau et donc entretenir tout cela, ce qui vous empêche de toute façon d'avoir une vraie politique de coûts qui les ferait descendre.
Alors la politique de coûts, elle est pour SNCF Voyageurs, SNCF Réseau c'est à part. Oui, ça fait des années que nous baissons
mais
nos
coûts. Mais les profits d'SNCF Voyageurs, un certain nombre des profits, c'est ce qui est acté, un certain nombre des profits d'SNCF Voyageurs doivent aller dans SNCF Réseau. Donc au bout du compte,
alors,
les deux
juste pour le clarifier peut-être, c'est-à-dire que l'actionnaire, le groupe SNCF, tout l'argent que gagne SNCF Voyageurs, donc tout ce qui est payé par le voyageur, effectivement, ce que nous gagnons reste dans le réseau ferroviaire et permet de moderniser le réseau. Ça ne nous empêche pas d'améliorer nos coûts. Mmh. Depuis plusieurs années, on avait dit il y a 5-6 ans, la SNCF, elle est 30% plus chère que ses concurrents. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons, dans les deux appels d'offres, été sur le podium. Sur le premier, on a gagné. Le deuxième, on a été dans le trio de tête. Oui, on a baissé nos coûts. On a fait largement plus de la moitié du chemin sur les 30% de surcoûts.
Alors, justement, autour de ces questions-là. Bonsoir, Dominique. Dominique.
Oui, bonsoir.
Ah, voilà, on vous avait perdu, Dominique. Vous étiez dans le train. On vous écoute, allez-y.
Déjà, je voulais vous remercier pour l'émission. Je trouve que c'est important, un espace de confrontation. La confrontation, c'est pas conflit. Donc, voilà.
Eh bien, tant mieux. On vous écoute, Dominique.
Moi, je vais vous poser une question sur la visibilité, justement, des tarifs, parce que j'ai pu voir qu'en Espagne, par exemple, où il y a beaucoup d'opérateurs qui interviennent sur les réseaux ferrés, c'est impossible de s'y retrouver, c'est l'enfer. Et donc, je voulais savoir si c'était prévu, si l'État ou SNCF, je ne sais pas qui, avait prévu quelque chose pour que les voyageurs s'y retrouvent. Moi, aujourd'hui, j'ai une carte Liberté, je ne me pose pas de questions, je prends le TGV et je sais exactement quel prix je vais payer. Mmh. Demain, est-ce que j'aurai de la visibilité sur ces tarifs ?
Merci beaucoup, Dominique. Et j'ajoute à la question de Dominique, Christophe Anichet, est-ce qu'il y aurait une meilleure lisibilité? Et surtout, donc, lorsqu'on sera dans des situations où, dans certaines régions, comme c'est le cas dans le Sud-Est en ce moment, on a d'autres choix qui s'offrent à nous. À quel moment on a le panneau complet? Est-ce que c'est possible, ça?
Alors, la question de Dominique, elle est au cœur de nos préoccupations. C'est la lisibilité des tarifs, la lisibilité du choix que vous aurez demain sur ces sujets. Sur les TER, la réponse est très simple. Nous avons décidé, et ça va apparaître le fin janvier, une seule application pour l'ensemble des tarifs régionaux. Par exemple, pour la région sud, eh bien que le TER soit opéré par SNCF ou un autre opérateur.
C'est le sens de ma question. Sera... Même quand c'est pas opéré par vous, on est d'accord.
Et quand ça ne sera pas opéré par nous, dans un TER, que ce soit opéré par SNCF ou par Transdev, les tarifs seront présentés et seront surtout, au lieu de l'être présentés, seront achetables sur une seule application. Mmh. On est souvent critiqué à la SNCF
parce
sur le fait que c'est
beaucoup
compliqué d'acheter et qu'il y a trop d'applications.
Oui.
La bonne nouvelle que je veux faire
repasser
aujourd'hui, une seule application, SNCF Connect, à partir de fin janvier, qui vous permettra de rassembler l'ensemble du portefeuille de vente des trains et en particulier des TER qui sont les premiers ouverts à la concurrence.
Gilles Danzard, moi je m'interroge, on le disait au moment de l'ouverture à la concurrence, au moment des premières discussions, tout ça a été un petit peu retardé, un peu beaucoup d'ailleurs à cause du Covid. Est-ce que c'est un choc quand même, un choc culturel, cette ouverture à la concurrence dans une entreprise où la culture d'entreprise précisément est extrêmement forte et parfois même assez éruptive, on va dire?
Un choc culturel, certes, mais qui n'est pas aussi important que ce qu'on aurait pu penser. Mmh. Le premier choc culturel, c'était en 2006 pour les marchandises, pour le fret, où là, il y a eu des manifestations très importantes au moment du premier train privé de fret. Et si vous avez pu voir samedi dernier, à Gare de Lyon, au moment où le premier train de Trenitalia a quitté la gare, il n'y avait aucune manifestation. Mmh. Quelque part, à force d'en parler, à force de le préparer, parce que ça n'est pas évident de préparer une entreprise aussi complexe que la SNCF à accueillir des trains d'opérateurs différents, eh bien finalement, c'est rentré un peu dans les mœurs. Alors, il y a des contestations idéologiques ou par réflexe de organisationnel de dire qu'il faut que le ferroviaire, parce que c'est le rail et la roue qui sont étroitement liés, doit rester monopolistique, eh bien, il ne faut pas accepter de concurrents. Bon, il subsiste toutes sortes de conceptions, mais de fait, dans l'entreprise, il y a eu un gros travail de fait pour faire accepter à l'ensemble des cheminots ce principe de la concurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque part, c'est rentré dans les mœurs, tout simplement parce que les cheminots s'aperçoivent que si le train a cet avenir qu'on lui prédit, hein, parce que l'écologie, parce qu'on prendra moins l'avion et peut-être moins la voiture, à ce moment-là, il va falloir que beaucoup d'acteurs se mettent autour de la table et autour des voies pour offrir plus de solutions et plus de trains aux Français. Donc finalement, la concurrence, ça n'est peut-être pas se partager le même gâteau, mais c'est augmenter le gâteau et que la SNCF restera évidemment l'acteur largement majoritaire, mais que des nouveaux acteurs pourront apporter quelque chose aussi à la communauté nationale.
Parce que votre vrai concurrent, Christophe Anichet, au fond, c'est la route. C'est pas tellement le voisin italien, c'est plutôt la route.
Moi, je dirais que notre vrai concurrent, d'abord, c'est la voiture. Je rappelle que 90% des déplacements en France sont en voiture, seulement 10% sont en train, et que le transport, on parle beaucoup de carbone, d'abord le train c'est décarboné, et on parle dans les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre, 30%. Le train, c'est 0,3% pour 10% des voyageurs, donc
après,
c'est vraiment le bon mode. Et pour rebondir sur le propos
de
Gilles Dansart, si vous me le permettez, par ailleurs, cette ouverture à la concurrence pour le voyageur, elle a été préparée de façon très importante en interne de l'entreprise, mais aussi par le gouvernement qui a mis les conditions qui permettent que cette ouverture de la concurrence ne soit pas un dumping social, mais véritablement une concurrence sur la qualité de service et les coûts.
Est-ce que maintenant il y a un pied dans la porte ? Est-ce que ça veut dire que... alors parce qu'on sait bien qu'il y a des projets avec la RENFE, donc les Espagnols et aussi d'autres. Pour ce qui est des régionaux, il y a un certain nombre de start-up même qui sont sur le rang. Est-ce que ça veut dire que le pied dans la porte, c'est que désormais la cadence, ce sera tous les ans, tous les deux ans, de nouvelles lignes qui seront désormais de compagnies étrangères, exactement comme nous sommes d'ailleurs, nous, chez les voisins, il faut le rappeler aussi. On circule en Espagne avec des trains français estampillés SNCF, mais est-ce que le pied dans la porte, ça veut dire que désormais, dans certaines lignes, tous les ans, tous les deux ans, on verra des compagnies étrangères.
Le marché, il est ouvert. Le marché, il est ouvert. On le voit sur Paris, Lyon, Milan, Trenitalia est arrivé. On a vu que sur la région PACA, des concurrents sont arrivés. Oui, la concurrence est présente. Moi, mon ambition, c'est que plus de voyageurs prennent le ferroviaire et mieux c'est. Et surtout, mon ambition, c'est que la SNCF reste le leader de la mobilité ferroviaire. On en a toutes les qualités, la qualité de service, mais aussi les coûts. Et puis, comme vous le disiez, c'est ce qu'on fait aussi en Europe. Je donne un exemple très concret. On a ouvert Ouigo en Espagne, sur la ligne Madrid-Barcelone. Et sur cette ligne, eh bien, avec 5 allers-retours, on a permis d'augmenter le gâteau ferroviaire. Ce que disait Gilles Dansart. La concurrence ferroviaire, elle doit être accompagnée par d'autres innovations et par plus de ferroviaires. 17% de plus, et surtout, on a fêté en quelques mois 1 million de voyageurs. C'est vraiment top. Aujourd'hui, les jeunes, mais toute la population a envie de ferroviaire, et c'est ça qui est notre débat.
Mais sur une ligne comme Paris-Lyon, par exemple, est-ce que c'est possible? Parce que vous avez 22 allers-retours, il va y en avoir 5, donc par ailleurs, à un moment, elle va être saturée, cette ligne, non? Est-ce que donc, du coup, est-ce que le gâteau est vraiment extensible à ce point-là?
Il y a encore de la place. Il y a encore de la place, très sincèrement, il y a encore de la place pour d'autres opérateurs. Le sujet, c'est le marché, après. On peut mettre beaucoup de trains, mais il faut qu'il y ait le marché. On pense aujourd'hui qu'il y a de la place pour faire encore plus de trains. Nous, on le souhaite, et puis s'il y a d'autres concurrents, ça sera avec amitié qu'on les accueillera, parce qu'à la fin, tout Français qui prendra le train, ça sera toujours mieux qu'un Français qui prend sa voiture.
Agnès est avec nous. Bonsoir Agnès.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, moi, je vous entends parler de l'ouverture à la concurrence.
Attendez Agnès, pardonnez-moi, Agnès, vous êtes sur haut-parleur, non? Il va falloir, il faut que vous l'enleviez parce qu'on vous entend très mal. Voilà, allez-y.
Oui,
allez-y.
Alors, je vous entends dire que tous les gens ont envie de ferroviaire. Et moi, je me fais la réflexion que depuis des dizaines d'années, nos grands-parents, parents, ont payé des lignes SNCF partout dans la France, qui a un maillage magnifique, avec plein de petites lignes et de petites gares qui ont été désaffectées. Et qu'on ne peut pas prendre le train quand on est d'une petite ville à une petite ville, sous prétexte que ça coûte trop cher. Et moi, j'entends parler de cette ouverture à la concurrence, qui, à mon sens, ne va être encore valide que pour passer d'une grosse ville à une grosse ville. Et ça va encore servir à des gens qui ont déjà des lignes. Et les gens qui n'en ont pas, vont encore s'asseoir dessus.
Merci beaucoup Agnès. Une remarque frappée au coin du bon sens d'Agnès. Si c'était pas les lignes Rantale, Paris-Lyon, c'est pas là que les Italiens se seraient installés. Donc qui va aller s'installer sur les lignes dont parle Agnès là où elle habite? Est-ce que ces lignes qui ferment sont de toute façon vouées à fermer? Et ça, on n'y changera rien.
Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. D'abord, le gouvernement et Jean-Baptiste Djebbari a une politique extrêmement claire sur ce sujet. C'est le développement des petites lignes, des lignes fines du territoire. Et c'est avec chacune des régions, on va réouvrir des lignes. Des conventions sont passées, de telle façon à justement, comme l'indiquait Agnès, les petites lignes ne soient pas délaissées. Pour nous, à la SNCF, il n'y a pas de petite ligne. Il y a la ligne de chacun de ces voyageurs.
Et il y a eu des lignes supprimées, Monsieur Fanichet, il y a eu des lignes supprimées. Il y a des tas d'endroits où elles sont remplacées par des bus ou par des cars, etc. Ça, c'est vraiment une réalité dans les petites villes pour aller d'une petite ville à l'autre.
C'est exact, mais il faut aussi le dire, c'est que le ferroviaire n'est pas pertinent partout. Mmh. Il faut aussi accepter de dire que le ferroviaire n'est pas pertinent partout. Je pense que ce qu'a fait le gouvernement avec les petites lignes, c'est de réouvrir les lignes qui ont une pertinence pour que le mode ferroviaire réponde à cette question. Le mode ferroviaire, c'est un mode qui est lourd et cher. Parfois, effectivement, un bus peut répondre mieux à cette question et de façon plus rapide. Nous, on veut qu'il y ait beaucoup plus de ferroviaire, mais il faut que ce soit une politique publique qui la supporte, ça peut pas être la SNCF en tant que telle.
Ça veut dire que si c'est pas rentable, on ferme. C'est aussi simple que ça.
Nous sommes une entreprise. Donc, c'est une politique publique. Je vous donne un chiffre qui est intéressant à partager avec vous. Aujourd'hui, les TER, c'est une politique publique d'une région. Et un TER, il faut que les Français le retiennent. Un TER, la région paye 3/4 du prix du billet de train et le voyageur 1/4. Mais c'est normal parce qu'il faut que nous puissions irriguer nos territoires avec des trains parce que c'est décarboné et c'est une véritable facilité. Tout le monde n'a pas une voiture et tout le monde a besoin pourtant de se déplacer.
Éric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Éric.
Oui, moi, je sais qu'il y a eu une privatisation des chemins de fer anglais il y a quelques années, que ça avait été au début une catastrophe. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, hein, je suis utilisateur du service public. Et franchement, de savoir qu'il y a 4 trains qui vont faire un TGV là et des TER dans le sud-est, franchement, enfin pour moi, c'est un petit peu n'importe quoi, quoi, parce que ils profitent d'un système qui est en place avec un réseau ferré qui est tip-top. Alors c'est clair qu'il y a des revendications, mais j'imagine que les syndicats ils ont des revendications, c'est complètement logique. Donc je comprends ça pas, cette logique de vouloir privatiser la SNCF. On sait qu'on est dans un moment de notre vie où on s'interroge sur notre devenir, sur l'autonomie. Et je vois, alors peut-être que la SNCF est content parce que ça leur gagne des marchés en Italie, en Espagne ou ailleurs, mais pour le citoyen lambda. Franchement, entre les impôts que je paye et le ticket que je vais payer à la SNCF, la concurrence, je ne sais pas. Si je suis gagnant en tant que consommateur, je serai perdant en tant que citoyen.
Eh bien, merci beaucoup, Éric, pour votre remarque. C'est ce que je disais tout à l'heure, Christophe Fanichet, sur le fait qu'il y a un attachement au service public de la SNCF et une crainte de qu'elle soit bouleversée. C'est un peu ce que notre ami Éric est en train de nous expliquer, que tout ça soit finalement contre-culture et que nous, qu'est-ce qu'on y gagne, en fait, nous, le consommateur.
Aujourd'hui, nous, aujourd'hui, la concurrence, elle est là. Je n'ai pas un plaidoyer ni pour ni contre, elle est là. Et moi, ce que je peux dire à Eric, d'abord, c'est que tous les cheminots sont extrêmement concernés par le sujet de la concurrence, ont envie de se battre et vont se battre pour cette concurrence. Gagner, d'ailleurs, on voit bien ce qui s'est passé en région PACA. Donc aujourd'hui, ces sujets-là, c'est véritablement des sujets d'entreprise. On sera là et je pense qu'on a d'excellents produits pour pouvoir répondre à toutes leurs questions.
Gilles Danzard, je sais que vous vouliez intervenir. Je ne vous ai pas oublié. Allez-y, monsieur Danzard.
Oui, la première chose par rapport à ce que disait Eric, c'est que à la grande différence de la Grande-Bretagne, on n'a pas privatisé le réseau en France. Mmh. Le réseau est public, c'est un monopole public et à aucun moment il n'a été question de le privatiser comme ça a été le cas après Margaret Thatcher. Alors il y a quelques petites lignes qui vont passer sous tutelle régionale, mais quasiment tout le réseau français reste un monopole public. Donc il n'y a pas l'inquiétude d'une certaine façon de dilapider un héritage
et de pure privatisation en fait. C'est ça, voilà, le mot qu'a employé notre ami. programmé Eric voilà. tout à l'heure.
Ça n'est pas le cas. Le réseau reste public. La deuxième chose qu'il faut quand même remarquer par rapport à ce que disait Madame il y a quelques instants, c'est que entre le réseau TGV et les petites lignes dont parlait Christophe Anichet, il y a ce fameux réseau classique qui a été quand même un peu abandonné ou maltraité par les pouvoirs publics, la SNCF n'étant que le bras armé des pouvoirs publics. Et de ce point de vue-là, les concurrents dont vous parliez tout à l'heure, des start-up, etc., qui sont en train de se positionner, essaient d'aller sur les marchés que la SNCF a un peu abandonnés du fait des politiques d'État. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, parce que des entreprises comme, qui s'appellent Le Train, Railcop, etc., veulent essayer de redynamiser ces liaisons interrégionales qui, aujourd'hui, manquent beaucoup aux Français.
En un mot, Gilles Dansart, puisqu'on a traversé un tout petit peu nos frontières, vous l'avez un peu évoqué, effectivement, ça a été une catastrophe au Royaume-Uni d'abord, ça n'a pas du tout été fait de la même manière, au point d'ailleurs que l'État, à certains égards, a repris la main. Comment ça s'est passé en Allemagne? Comment ça s'est passé en Italie, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle ou c'est un non-sujet?
En Allemagne, ils ont fait le choix, d'une certaine façon, il y a 30 ans après la chute du mur et la réunification, ils ont fait le choix que l'on fait aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'un monopole de l'infrastructure met des concurrents privés qui sont venus prendre progressivement des parts de marché importantes. Et aujourd'hui, les privés font entre 25 et 30% des trains en Allemagne. Et ça marche bien et ça s'est traduit par une augmentation sur la durée de l'offre ferroviaire. Et en Italie, c'est beaucoup plus récent, mais l'arrivée d'opérateurs privés, notamment sur les nouvelles lignes à grande vitesse, s'est traduite par une très grosse augmentation de la fréquentation. Donc, ce sont des exemples positifs, mais il faut bien noter qu'à chaque fois, ça a été rendu possible par une augmentation des investissements publics. Encore une fois, la concurrence n'est pas miraculeuse. Elle permet de rendre encore plus efficaces les investissements pour moderniser et développer le réseau ferroviaire.
Plus d'investissements publics, Christophe Anichet, est-ce que c'est à l'ordre du jour, ça, plus d'investissements publics?
Aujourd'hui, pour compléter ce que vient de dire Gilles Dansart et le rejoindre, sur les infrastructures et les gares, l'ensemble des investissements, il va être mis à contribution et les opérateurs alternatifs vont pouvoir y participer. Donc, ce n'est pas une privatisation de ces investissements-là. Oui, je pense qu'il va y avoir des investissements complémentaires. Le gouvernement l'a rappelé, rien qu'avec ce qui va se faire pour pouvoir rejoindre Toulouse, par exemple, pour pouvoir continuer à accélérer les connexions entre les grandes métropoles. Oui, je pense encore des investissements qui vont être faits sur les infrastructures.
Il y a,
C'est valable aussi sur les petites lignes.
Dans une interview assez récente, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dit qu'il faudrait 30 milliards pour remettre tout le réseau en état. Si on voulait vraiment remettre réellement le réseau en état et devait vraiment sur nos deux jambes, il faudrait 30 milliards. Ça paraît un très gros chiffre.
Je vais vous donner deux éléments. D'abord, le réseau ferroviaire français, il a 33 ans d'âge.
Ouais.
Là où le réseau ferroviaire allemand en a 17. Aujourd'hui, nous devons rattraper...
Et les Suisses, ils ont 60 ou 70 ans.
Pardon ?
Les Suisses ont 60, 70 ans, je crois. Donc, après tout...
Ah non, c'est beaucoup plus jeune. Ils sont beaucoup plus jeunes. Et donc, la qualité de service sur un réseau, ça dépend de son âge. Donc, c'est ce rattrapage qu'il faut que nous fassions. Et en particulier sur ce qu'on appelle le réseau classique, c'est-à-dire hors grande vitesse. Oui, il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros à remettre sur la table pour améliorer la qualité de service. Aujourd'hui, un train en retard, il y a plusieurs causes, dont des causes réseau, tout simplement parce que le rail est ancien.
Alors justement, et qui paye pour ça, si ce n'est les contributions de l'État? Voici une question de Loris. Bonsoir Loris.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir messieurs. J'aurais une question du coup pour le patron de la... Enfin, le patron. J'ai pas très bien compris, mais celui qui travaille pour la SNCF.
Christophe Anichet, PDG de SNCF Voyageurs, le monsieur qui travaille à la SNCF. Allez-y.
Voilà. Ma question est simple. On va laisser des sociétés d'exploitation ferroviaire italienne travailler du coup sur le réseau ferré français, qui est payé certes par des bénéfices faits par la SNCF, mais aussi par nos impôts. Je constate que ce monsieur, enfin que vous, du coup, en l'occurrence, monsieur, répondez assez vaguement à la plupart des questions. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quelle hauteur et comment vont-ils contribuer à rembourser, entre guillemets, les frais de rail et les frais de maintenance l'État français va payer.
Loris,
est-ce qu'il y a des frais d'entrée aussi? Est-ce qu'il y a des frais d'entrée, du coup, pour la concurrence italienne?
Vous êtes... ouais,
pour pouvoir utiliser nos règles.
Je vous ai entendu, Loris, vous étiez vraiment, je ne sais pas très bien comment par rapport à votre téléphone, mais votre la lésion était très mauvaise, mais j'ai bien compris le sens de la question. Christophe Fanichet, est-ce que les compagnies italiennes ou quelles que soient les compagnies qui arrivent payent leur obol précisément sur la mise en place du réseau, par exemple sur l'entretien des voies ferrées?
C'est extrêmement simple, c'est comme en voiture, pour le coup, on paye des péages. C'est-à-dire que pour faire Paris-Lyon, Trenitalia va payer exactement le même péage que le fera SNCF Voyageurs. Donc oui, lorsque vous circulez sur le réseau ferroviaire français, quelle que soit la compagnie, vous payez le même prix. Et surtout, ce prix, il vous permet d'entretenir le réseau. Donc ce prix est payé par l'opérateur qui circule. Voilà la réponse à cette question. L'autre point plus précis, c'est que effectivement, tout euro gagné par SNCF Voyageurs permet également de compléter la modernisation du réseau. Mais c'est deux choses différentes. Trenitalia paye 100% des coûts de maintenance, tout comme SNCF Voyageurs.
Et d'ailleurs, Gilles Dansart, c'est à vous que je vais poser la question. Les Italiens ont beaucoup tonné quand même en disant que s'adapter au rail français, ça avait été toute une histoire. Il y a un certain nombre de contraintes techniques liées notamment à ce qu'on appelle la signalisation par contrôle de vitesse, etc. En gros, c'est pour ça que c'est à vous que je pose la question, Monsieur Dansart. On a pu lire ici et là que la SNCF n'avait pas facilité réellement l'entrée des Italiens.
Oui, c'est même le régulateur, l'autorité indépendante qui s'appelle l'ART, l'autorité de régulation des transports, qui a aussi haussé les sourcils en notant qu'il y avait eu quelques difficultés. Bon, aujourd'hui, ça circule. Ça a été un peu difficile, notamment pour l'épisode que vous évoquiez sur les balises de signalisation. C'est résolu, ça a mis peut-être un peu plus de temps. On va mettre ça sur le compte des difficultés de mise en œuvre. Il ne faudrait pas que ça se renouvelle. C'est-à-dire maintenant que le premier a réussi, il faudrait que pour les autres, ce soit plus simple. Mais il y a aussi un peu de jeu concurrentiel, c'est-à-dire que chacun considère que l'opérateur monopolistique historique freine un peu. Bon, normalement, tout ça devrait se mettre en place parce que déjà le régulateur y veille, et puis parce que il ne faudrait pas que, par exemple, l'Espagne fasse des mesures de rétorsion parce que la France, soi-disant, mettrait des difficultés. Bon, c'est un jeu, je pense, qui va petit à petit se mettre en place. Et il ne faut pas y voir de grandes stratégies de barrières à l'entrée. Sinon, effectivement, et l'Europe et le régulateur pourraient sanctionner durement les opérateurs qui s'y risqueraient.
Christophe Fanichet, est-ce que vous êtes allé de mauvaise grâce? Est-ce que vous avez mis des bâtons dans les rails italiens?
Non, je ne le pense pas. D'ailleurs, ils sont présents. Tout a été fait. C'est SNCF Réseau hein, qui ouvre les rails à l'ensemble des opérateurs. Trenitalia est présent, ils font deux allers-retours, ils projettent d'en faire cinq allers-retours. C'est sans doute des ajustements de démarrage, mais la concurrence, on est bien au courant qu'elle est présente et tout sera fait pour que les concurrents soient traités de façon équitable. C'est le travail de Luc Lallemand hein, qui le regarde de façon très précise. C'est pareil pour les gares, hein, avec Marlène Dolbecq qui s'en assure et Jean-Pierre Farandou le dit régulièrement. Tout sera fait pour que, sur la concurrence, nous soyons absolument équitables.
Est-ce que ça change tout pour les gares aussi? C'est une vraie question. À un moment, est-ce qu'il risque d'y avoir... Je faisais la comparaison tout à l'heure avec les sites sur lesquels on peut choisir un avion et une compagnie aérienne. Mais à l'intérieur d'un aéroport, les différentes compagnies sont toutes là. Il faut de l'espace, il faut des machines, il faut tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'une ouverture à la concurrence, ça veut dire aussi la transformation de chacune de nos gares? Est-ce que ça va ensemble?
Aujourd'hui, on a déjà préparé ces sujets-là. Il y a déjà des espaces qui sont disponibles. Et Trenitalia a loué des locaux en gare de Lyon-Pardieu, de mémoire. Donc oui, il y a des espaces. Et SNCF Gare et Connexion garantit à chaque opérateur de pouvoir louer des espaces pour tout simplement son service commercial.
Changer aussi la manière dont les gares sont faites, ça concerne la question d'Alyosha. Bonsoir Alyosha.
Bonsoir, je voulais intervenir par rapport au train de nuit. Les compagnies concurrentes vont sûrement développer des trains de nuit en France. Est-ce que la SNCF réfléchit à remettre sur le marché des trains de nuit?
Eh bien, on va poser la question tout de suite. Christophe Fanichet, ça a commencé entre Paris et Nice, ou est-ce que ça en est les trains de nuit, nos voisins européens, pour les mêmes raisons que ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que le voyage en train désormais est favorisé par rapport à la voiture, en tout cas par certains voyageurs. Est-ce que c'est vraiment le grand retour du train de nuit ?
Moi, je pense que c'est vraiment le grand retour du train de nuit. C'est véritablement un besoin qui retrouve sa clientèle. On a ouvert en mai le Paris-Nice, qui a un excellent taux de remplissage. Véritablement, il y a un véritable engouement sur ce train. On a ouvert le week-end dernier le Paris-Tarbes-Lourdes, qui également a trouvé son public. Et puis, je dirais que le train de nuit a un avantage, c'est que c'est sur des longues distances. Et nous avons ouvert une ligne avec nos collègues européens. On a un partenariat avec nos collègues autrichiens, suisses et allemands. Et nous avons ouvert la ligne Vienne-Paris, pas plus tard que la semaine dernière. Véritablement, c'est un engouement, mais c'est pas juste du cosmétique. Il y a véritablement des voyageurs et je pense qu'on va retrouver notre public.
Gilles Dansart, est-ce que vous y croyez, vous, au train de nuit, vous, le rédacteur en chef de Mobilettre, spécialisé dans les transports, est-ce que vous y croyez ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi, selon vous, en termes d'investissement ? Parce que les trains de nuit, on a tous fréquenté ça quand on était petit. Il y a un sacré travail à faire à l'intérieur aussi pour qu'il soit modernisé, on va dire.
Oui, vous avez raison. Il faut relever d'ailleurs que la SNCF, pendant 10 ans, a fait en sorte de tous les mettre au rebut. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'il y a eu une mobilisation des usagers et une volte-face de l'État que finalement les trains de nuit reviennent. Ça donne un peu le vertige. En quelques années, ils sont partis, ils sont revenus. Bon, si on met ça de côté, vous avez raison, il y a une sorte de d'effervescence, même au niveau européen. Les Autrichiens ont développé des trains de nuit avec succès. Et il y a un public pour aller moins vite et moins cher. Finalement, c'est un peu ça, le train de nuit. C'est une autre façon de voyager, en prenant son temps, peut-être avec un tarif pour certains plus faible, pour d'autres beaucoup plus élevé, parce que ils vont essayer de valoriser leur temps avec des cabines, des douches, etc. à bord des trains. Donc si on regarde ce qui se passe au niveau européen, il y a une niche, comme on dit en matière commerciale, pour des trains de nuit, avec des voitures assez luxueuses pour une certaine clientèle, et puis d'autres moins chères pour des étudiants, des jeunes qui auront le temps de traverser le pays pendant la nuit. Donc il y a un marché, mais il se heurte à une vraie difficulté, c'est le coût du matériel roulant. Il faut des nouvelles rames, évidemment avec le Wi-Fi, évidemment avec un minimum de confort, et là, il faut un ticket d'entrée assez élevé. C'est pour ça que l'État français est en train de réfléchir à investir pour faire en sorte de mettre à disposition des opérateurs, dont la SNCF, des trains nouveaux, des trains plus modernes. Et à cette condition-là, à ce moment-là, on pourrait assister, mais dans les années qui viennent, pas avant la fin de cette décennie, à un vrai retour des trains de nuit de façon assez massive. Mais pour l'instant, ça reste anecdotique, mais à condition, là encore, d'investissement, mais pas sur l'infrastructure parce qu'elle existe, mais sur les matériels, sur les voitures de train, on pourrait assister à un vrai retour des trains de nuit d'ici 8 à 10 ans.
C'est vraiment les voitures, Christophe Fanichet, qui vous manquent. Parce qu'effectivement, on a tous cette image qui est très ancienne, de choses assez spartiates, au fond.
Et ça, oui, c'est véritablement les voitures, on en recherche partout en Europe. Ouais. Les plus gros constructeurs sont Siemens, c'est d'ailleurs ce que nous faisons avec le Paris-Vienne. Néanmoins, nous avons rénové les nôtres, et d'ailleurs, celles qui sont rénovées et qui ont circulé depuis le week-end dernier, elles ont déjà à bord le Wi-Fi par exemple.
Il nous reste une petite trentaine de secondes en parlant de train parti-revenu. Je pense au train plus auto, par exemple, qui a intégralement disparu. Est-ce que pour le coup, c'est comme les trains de nuit, ça ? Il y a une autre façon de voyager aujourd'hui, peut-être plus écologique. Est-ce qu'on se dit qu'un jour, ce genre de choses peut revenir pour que les gens puissent mettre leur voiture sur le train, voyager avec et puis la remettre derrière après ?
Alors,
est-ce que c'est terminé, fini, ça ?
Moi, je pense que sur ce sujet, le train plus auto, c'est plutôt terminé. Aujourd'hui, on a plutôt de plus en plus sur l'usage de la voiture, plus que d'être propriétaire de la voiture. Mmh. Et donc, on est partisans plutôt de développer de la location ou du partage de voiture au bout, plutôt que véritablement déplacer 1,5 tonne sur un train pour 2 personnes.
Allez, on siffle sur le quai, la fin de la partie. Merci beaucoup et la fin de l'émission. Merci beaucoup, merci à tous pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.